TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce 8e épisode de TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, 7 juin 2022, jour d'enregistrement, nous aborderons deux sujets, l'ISC, infrastructure as code, et les dépendances des projets aux librairies externes. Et pour aborder ces deux formidables sujets, je serai accompagné du talentueux Mathieu. Mathieu, qui es-tu et que fais-tu au quotidien ?
Salut à tous, merci d'être fidèle à TechVox. Écoutez, on sort d'un week-end de 3 jours, donc c'est cool, je me sens bien. En plus, on est dans une saison qui commence à être un peu estivale, là. Il y a des orages, il y a plein de pluie, il fait un peu froid le matin, c'est génial. Pour un mois de juin, c'est le temps rêvé. Et à côté de ça, on a plein de projets cool en ce moment chez C2S. Des migrations vers du cloud, du Java, de l'authentification. Enfin bref, plein de problématiques assez fun pour attaquer l'été. Donc on se marre bien, c'est top. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous du coup pour parler de ces deux sujets qui sont assez sympas.
Impeccable, merci Mathieu. Et avec Mathieu, nous serons accompagnés de Julien. Julien, qui es-tu? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que fais-tu au quotidien?
Eh ben, pour ma part, moi je ressors d'un week-end bien ensoleillé dans cette merveilleuse ville qu'est Paris. J'ai fait mon vrai tourisme, je suis passé par tous les monuments, c'était génial. Et en ce moment, je travaille sur une petite marketplace, donc c'est pas mal, c'est des nouveaux concepts à appréhender, c'est sympa.
Cool! Merci Julien. Et donc moi-même, votre fidèle serviteur Emilien, qui a profité de son week-end pour s'occuper de ses enfants malades. Donc je suis relativement content de revenir travailler, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais je vois très bien, ouais.
ouais, c'était en plus le grand week-end. Bref, bon, c'est pas grave. Passons. Allez, entamons les sujets du jour. Donc IAC, le premier des deux sujets. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, l'IAC, donc c'est un acronyme pour Infrastructure as Code, qui décrit finalement un ensemble de techniques et d'outils qui permettent à une équipe de développeurs ou d'infrastructures, peu importe, de provisionner, faire évoluer ou démonter des infrastructures à travers de code. Il existe pléthore d'outils sur le marché pour effectuer ce genre d'action. Il y a Terraform qui est le leader, j'ai envie de dire, sur le domaine, mais il existe plein d'autres outils tels que Pulimi, Bicept et ainsi de suite. Et le principe est de dire qu'en fait, à travers du code, on va décrire l'infrastructure qu'on cible, donc l'infrastructure, les VM, les comptes de stockage, les bases de données, les réseaux virtuels. Donc on va décrire l'infrastructure qu'on souhaite et l'outil IAC va venir prendre ce qu'on a décrit et effectuer les modifications, les créations et les suppressions en ligne sur votre cloud pour que finalement l'infrastructure que vous avez à terme soit celle que vous avez décrite. Ça vous permet en fait de déshumaniser, façon de dire, les actions de création d'éléments en ligne et surtout de les automatiser. C'est-à-dire que si demain vous avez besoin de faire évoluer votre infrastructure, plutôt que d'aller sur un portail de gestion, faire des clics à droite à gauche et ne pas vous souvenir ce que vous avez fait, vous allez venir modifier votre code IAC du coup, pour que ces modifications d'infrastructure soient sauvegardées, historisées à travers ce code et ensuite appliquées par des robots. Ça vous permet en plus du coup de valider en amont par d'autres personnes que ces modifications sont cohérentes, correctes, et de les rejouer à l'infini. Vous pouvez les rejouer sur plusieurs environnements différents. En soi, c'est pas grave, il n'y aura pas de divergence dans le jeu, dans les modifications qui seront effectuées, puisque finalement, c'est un robot un agent qui vient faire ces modifications. Et donc, du coup, vous pouvez, à travers l'IAC, driver votre infrastructure par du code. Et nous, en tant que développeurs, le code, on ne va pas vous mentir, ça nous fait kiffer. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces deux sujets, Mathieu, Julien? Il me semble que oui, mais est-ce que vous avez déjà exploité, utilisé des outils de ce genre-là?
Ouais, moi je le connais plutôt pas mal, on s'en est déjà servi C2S hein, déjà dans le cadre de certains projets, essentiellement avec du Terraform d'ailleurs. Et moi je m'en suis servi un petit peu à titre perso pour faire des petits tests, des petites choses, voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs j'ai profité du week-end pour passer un peu de temps sur Pulumi, qui est pas mal, on en reparlera tout à l'heure, on verra ce que ça donne là, mais. J'ai vu des choses intéressantes, j'ai vu des choses qui m'ont surpris aussi, alors peut-être parce que je suis pas allé suffisamment loin ou j'ai peut-être mal compris des choses, mais il y avait des trucs bizarres. En tout cas, il est ultra à la mode hein, cet outil, j'ai vu que dans la communauté tech, là, c'était vraiment le autant Terraform et un peu le leader dans l'industrie, non officiel mais néanmoins leader. Pulumi, dans la communauté tech, il est vachement en vue en ce moment. un petit peu plus récent, je crois. 2018, Pulumi, 2014, Terraform, qui est un peu plus ancien. Donc, voilà, quand même quelques années qui les séparent. Mais l'outil a du potentiel, donc à voir. Moi, ce que j'avais noté dans les différents trucs que j'ai pu lire un peu là dernièrement et dans mon expérience sur ces sujets-là, c'est qu'il y a vraiment deux façons d'approcher l'IAC en fait. T'as soit tu es en mode cloud provider spécifique, genre ton infra elle est forcément sur Azure, enfin elle est entièrement sur Azure plutôt, entièrement chez Google, entièrement sur AWS. Dans ce cas-là, tu peux partir sur des outils un peu spécifiques. Je pense à Bicep, par exemple, qui se base sur les templates ARM et qui est finalement vachement bien fait parce que étant exclusif à Azure, il va supporter la totalité du scope et ça en mode zero day, quoi. C'est-à-dire tu as un nouveau produit qui sort demain, le 8 juin, sur Azure, nouvelle feature sur un app service ou sur les Azure Functions, je sais pas. Dès ce jour-là ou dès le lendemain, la fonctionnalité sera supportée par Bicep. Donc ça, si jamais t'es très lié à ce provider-là et que tu fais que ça, bah c'est quand même vachement bien de passer par des outils comme ça. Et à contrario, si tu fais du multi cloud provider, je sais pas, t'en as un peu par-ci, un peu par-là, où tu changes régulièrement, bah, Bicep il est un peu moins adapté, parce que du coup tu pourras pas faire de AWS avec, et là c'est peut-être plutôt un Pulumi ou un Terraform qui pourrait faire le job, quoi. Mais du coup, t'as ton outil qui n'est pas forcément à jour, t'as 2-3 problématiques qui viennent derrière, donc voilà, on pourra en reparler après, mais c'est pas... En tout cas, de ce que j'ai noté, il n'y a pas de silver bullet, et il n'y a pas un outil pour les gouverner tous, hein, clairement pas, c'est... Il en existe un certain nombre, ils ont tous leurs points forts, leurs points faibles, et voilà, faut switcher parfois.
Pour ma part, l'IAC, je ne l'ai pas trop mis en place, je l'ai surtout... utiliser, on va dire, limite à appliquer quelques correctifs et vu un peu comment ça fonctionne.
Je pense c'était que avec quoi du coup ?
C'était plus sur les templates ARM.
Templates ARM, ok.
La fameuse formation Microsoft. Ah, c'est surtout c'est là que je l'ai vu, et après je l'ai vu sur quelques autres projets, je me suis intéressé un peu à comment c'était fait. Et bah, c'est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on aime bien mettre du code un peu partout, vouloir versionner. Pouvoir faire des reviews, automatiser tout ce qu'on veut, c'est quand même mieux que faire des clics via une interface que par une interface. Ça solidifie, on va dire, tous ces process-là. Après, moi, je trouve que ça rajoute, enfin, souvent sur la plupart des outils que j'ai pu voir, ça oblige à apprendre un nouveau langage. Et donc, ça, pour le coup, c'est vraiment pas dans l'air du temps de. C'était peut-être vrai il y a 10-15 ans où bah, les développeurs étaient amenés à maîtriser 5, 6, 7 langages. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique d'en apprendre 1, 2 ou 3 max et faire en sorte que bah, de limiter le nombre de savoir-faire dans une équipe.
Après, là-dessus, je vois très bien où tu veux en venir. Là, tu veux faire une transition sur Pulumi et le fait d'écrire ton IAC en C#. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi quand tu es un dev .NET... faire ton code applicatif et faire ton code IAC dans le même langage avec un outil, un environnement et que tu as l'habitude d'utiliser, c'est vraiment top. Par contre, moi ça me choque pas d'avoir potentiellement deux langages, tu vois, un langage vraiment pour la partie applicative et un langage pour la partie infra. Parce que quand tu prends Bicep, ou même HCL d'ailleurs, HCorp Language, là, leur langage de déclaratif, il est quand même assez naturel et plutôt agréable à utiliser. Je veux dire, tu le découvres pour une première fois, on te donne un fichier Terraform ou un fichier Bicep, tu vas pas passer beaucoup de temps avant de... Enfin, tu vas pas beaucoup galérer à comprendre ce qui s'y fait, quoi. Tu vois bien que tu cherches à créer telle ressource, c'est quand même vachement clair, quoi. Du coup, t'as pas de sournoiserie, t'as pas trop de gras autour... tu restes dans un truc où tu déclares des ressources, que tu les configures, etc. Et finalement, oui, c'est un nouveau langage à apprendre, ça je suis complètement d'accord avec toi, et quand tu peux t'en passer, clairement, no way, hein, moi je...
Après, pour ce genre de techno, on s'est très bien fait, ça se rapproche un peu en termes de syntaxe des pipelines CI/CD qu'on peut retrouver sur les différents, sur GitLab, sur
Azure. Ah, carrément, hein.
Et au final, on s'est fait au YAML. Mais si on, c'est vrai que avoir le bonus d'avoir des langages plus haut niveau qu'on maîtrise plus Bon bah voilà, c'est un peu comme on sort un peu du sujet, mais c'est un peu la même logique que les WebAssembly qui sont nés parce que les gens n'avaient plus envie de faire JS, ils avaient envie d'utiliser du Python, du C#, du Java, etc. Il en faut pour tout le monde.
Ils avaient envie de faire des trucs performants.
C'est ça.
Oui, c'est plus qu'ils ont envie de performance que de faire du Python.
Parce que bon, faire du Python, merci quoi. Moi, je le laisse aux autres.
Ah, mais il y en a qui s'appelaient, hein, faut pas.
C'est vrai, il en faut pour tout le monde de toute façon.
Faut pas cracher dessus, effectivement.
Et donc, du coup, vu que tu parlais de Pulumi, Julien, j'en viens à... J'ai testé un petit peu ce week-end comment ça fonctionnait. J'ai trouvé ça plutôt cool de. Bah, du coup, d'écrire du C# pour décrire ton infra. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, du coup, c'est que tu peux profiter de la puissance du langage. C'est-à-dire, tu peux avoir tes petites classes, tes petites librairies, tes petites fonctions, tu fais ton découpage comme tu as l'habitude de faire dans ton code applicatif, tu peux aller super loin, tu peux utiliser des boucles, tu peux vraiment profiter de 100% de la puissance de C# ou de n'importe quel autre langage, hein, ça marche aussi avec Java, Python, Go, enfin bref, il y en avait toute une ribambelle. Mais par contre, ce que j'ai trouvé un petit peu embêtant en fait, c'était que j'ai eu l'impression que derrière, donc déjà tu dois compiler ton truc, et tu, si j'ai bien compris, tu as une dépendance à un service externe derrière, qui est Pulumi Service, et sur lequel en gros tu pousses des choses, et c'est lui qui te fait le déploiement. Donc ça m'a embêté un peu par rapport à Bicep ou à Terraform, où t'as pas ce tiers-là, ou du moins ce tiers, il est intégré sur Bicep, il est intégré directement dans Azure, sur Terraform, c'est ta VM c'est ta machine qui les lance. Et du coup, je me suis dit, si demain, Pulumi Service, il les donne, comment je fais pour monter mon infra? Et j'étais un peu embêté là-dessus, parce que sur le papier, la solution, elle est top, mais je j'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient rajouté ce tiers-là, cette brique-là, alors que les autres, de mon point de vue, ne le proposaient pas.
Apprendre avec des pincettes, mais je crois que Pulumi ne fait que convertir ton code C# en code Terraform pour la plupart des fonctionnalités, et je pense que derrière il doit utiliser du coup les services Terraform. Donc au final c'est une couche d'abstraction qu'ils te font pour te permettre de développer en C#.
Ils n'utilisent pas les API des cloud providers directement?
Terraform utilise les API des cloud providers. Donc,
Oui.
s'ils font une transfo vers des providers
Ah, ça fera un
Terraform
étage en
derrière.
plus, ce serait bizarre quand même encore. Hein.
Ouais. Alors, je vous avoue que je ne sais pas comment fonctionne le système derrière, mais je pense que c'est pour garder la main sur le moteur de transcription et d'évolution de l'infrastructure. Ils ne voulaient pas se faire chier à le recréer dans 50 langages différents, donc ils le poussent vers chez eux. Chez eux, ils ont leur système qui interprète. Un bytecode pour lui, façon de dire, qui a été généré par le langage que tu as choisi. Et là, ils font la modif. À mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est possible,
Je
en
ne le connais
effet.
pas, hein, donc c'est purement spéculatif ce que je dis, mais ça me paraît très logique. Et puis, ça permet au passage de vendre de l'abonnement, si jamais tu veux te faire un peu de pépette. T'autorises 50 déploiements par mois, puis après, voilà.
Ils ont une offre, l'outil open source et tout ça. Après, ils ont une offre comme Terraform. Hein. Ils ont l'offre free et l'offre pro, hein, évidemment. Entreprise, j'ai envie de dire logique hein, sur ce type de choses-là. Ça
Oui.
me choque pas. Faut bien qu'ils vivent, les mecs. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Après, j'avoue que j'ai pas regardé par contre la diff, les limitations, tout ça, mais. En tout cas, j'ai déployé une infra, j'avais une app service, une base SQL, un compte de stockage, quelques Azure Functions, enfin bref, je fais un truc à la con qui ne fait rien, mais j'ai déployé de la ressource. Tu peux faire de la planification comme pour Terraform, tu peux destroy ton infra à la fin, t'as des modes preview. Un truc que j'ai noté par contre, un point positif par rapport à Terraform, en dehors du langage utilisé, même si ça c'est pour moi, c'est ni un point négatif ni un point positif, c'est plus une différence en fonction des gens. C'est que le statefile, enfin l'équivalent du statefile sous Pulumi, est nativement chiffré. Donc ça, c'est intéressant, parce que tu vois, sur Terraform, par exemple, c'est pas le cas. Il y a mille et une façons de le protéger et ça pose absolument aucun problème quand tu sais. Mais quand tu ne sais pas, tu peux vite te faire avoir et te retrouver avec des secrets, des credentials, des choses qui seraient dedans. Et si tu ne l'as pas mis sur un backend sécurisé, tu peux être emmerdé. Là, c'est natif, c'est plutôt cool.
Ça c'est bien, parce que c'est un des reproches que je fais à Terraform, moi. Justement, quiconque ayant accès au compte de stockage, voit tout, quoi.
C'est
T'as
ça.
beau avoir mis des mots de passe de 650 caractères de long, c'est pas grave, quoi. Les gens le voient. Donc ça c'est pas mal, ça, pour le coup.
Je lisais un article là-dessus ce matin, le mec il disait que c'était pas vraiment un point négatif du point de vue Terraform, parce que ton fichier, si tu le protèges correctement, t'élimines des choses, mais faut quand même avoir vachement confiance dans toute la chaîne de, dans toute ta chaîne d'hébergement, qu'il n'y ait pas de fuite et compagnie. T'en porteras de la responsabilité, t'es pas, c'est impossible d'être safe à 100% là-dessus. Et y en a d'autres qui carrément le supprimaient en fait une fois le déploiement terminé. Et j'ai trouvé ça étonnant comme approche parce que bah, ce state-là, t'en as re-besoin si tu fais d'autres déploiements derrière. Donc si tu le supprimes après chaque déploiement, j'ai peur que tu sois emmerdé à l'avenir.
En fait, tu es obligé de refaire un import quand tu refais ton déploiement. Tu réimportes ta l'existant pour ensuite refaire ton déploiement.
Ah, du coup, ça complexifie un peu, enfin, ça rallonge un peu le process, quoi. C'est pas.
Un peu? Ah bah ça dépend de ton infra, mais ça peut être beaucoup même.
Ouais, c'est loin d'être optimal. Enfin, je m'en rends pas compte le
Ah
temps
bah non.
d'import. J'ai jamais utilisé cette fonctionnalité-là,
Alors le temps
mais.
d'import, il est pas long en soi, c'est d'ordre de quelques secondes, mais si t'as 500 trucs à importer, bah voilà, ça te fait 5 minutes de baiser quoi. Et puis il faut que tu sois sûr de toi au niveau de la commande, de ce que tu veux, des URL que tu veux importer. Enfin c'est supprimer state file me paraît être
Ça me paraissait un petit peu too much comme solution. Après, c'est
ouais
sûr que là,
trop
t'es pas
même.
emmerdé, du coup, il n'y aura pas de fuite, le
Ah
fichier
bah non.
n'existe plus.
Il te faut quand même un référentiel à côté de tes secrets et autres. Faut
Oui.
pas. Enfin je vois typiquement SQL Server sur Azure, si tu changes le mot de passe admin, il te pète ton serveur SQL et puis il t'en recrée un. Donc si c'est en prod et que tu perds une base de données, t'as un poil l'air con, quoi.
Ça peut être emmerdant, en effet. Et un second point que j'avais trouvé en creusant le sujet aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler de ça, tu l'as peut-être vu, Emilien, toi, c'est que bah, Terraform, ils se sont mis un petit peu à la mode avec les nouveaux arrivants, je parle de Pulumi, et ils ont sorti un CDK, un Cloud Development Kit qui permet de décrire son infra avec du code. Tu peux faire du TypeScript, tu peux faire du Python, tu peux faire du Java, tu peux faire du C Sharp et tu peux faire du Go dans la liste que j'ai vue. Ça reste un peu frais encore, je crois que c'était juillet 2020, un truc comme ça, c'était de la preview, tout ça, je sais pas trop, j'ai pas eu le temps de le tester, donc je sais pas dans quel état c'est là aujourd'hui, juin 2022. Mais néanmoins, tu peux plus dire avec Terraform, je suis obligé de passer par le HCL, désormais c'est faux. Tu peux faire du code natif aussi, et du coup ça peut être intéressant. Si tu connais l'outil et que t'as pas envie d'en changer, par exemple. Mais que t'es séduit par cette approche-là, c'est. Je trouve que c'est une belle porte ouverte, tu vois.
Alors techniquement, j'étais pas du tout au courant de ça. Et je découvre, je parcours la page web en même temps que t'en parles. Je
C'est
trouve ça
Pulumi
génial,
qui en
tu vois.
parle en plus dans leur introduction.
C'est exactement comme ça que je suis tombé dessus.
Parce que ouais, à la base, ils étaient vraiment utilisateurs de Terraform, mais ils se sont dit, putain, mais c'est trop bête, pourquoi ils font pas un CDK? Et au final, ils l'ont développé. Et c'est assez étonnant que les deux aient pas fusionné au final. J'étais assez étonné en
Ouais,
lisant
c'est deux
ça.
sociétés différentes.
Et du coup, je pense que je prendrai le temps de le tester parce que j'ai été plutôt séduit par l'approche de Pulumi, le fait d'écrire du code C Sharp. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne avec Terraform, vu que je connais un petit peu mieux. Donc c'est cool, je trouve, ça permettra d'avoir d'autres façons de faire.
Clairement. Clairement. Et puis un peu plus simple. Ouais. Ouais. C'est bien, franchement, je regarde le site là et il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faudra appréhender, mais non, franchement, ça a l'air propre quoi. Non, c'est cool ça.
Et du coup, on parlait de. Juste en préambule, là, on parlait de Bicep tout à l'heure, Emilien. Je sais pas si tu t'en es servi, toi, de Bicep. Parce que
Du
là.
tout.
Ok.
J'ai vu beaucoup de choses passer. Comme vous le savez tous les deux, je passe ma vie sur Twitter. Donc autant dire que j'en ai vu pas mal passer du bicept. Comment dire? Je suis cul entre deux chaises en fait. Parce que c'est vraiment orienté Azure. Donc ça marche bien. C'est clairement beaucoup plus simple que les templates ARM, on va pas se mentir. Mais ce qui m'emmerde, c'est le fait d'être lié à Azure pour le coup en fait. Je vois sur les projets qu'on a fait, dont je ne citerai pas les noms pour pas parler de My Living Boom par exemple, le projet Terraform qu'on a sur My Living Boom, il interagit avec de l'OVH, du Azure et d'autres trucs. On n'est pas comment dire, mono provider en fait. Donc du coup, faire du bicept, c'est plus ça qui, bah, c'est comme l'ARM template en fait. Ce qui me dérange, c'est que du coup, t'es cantonné à un truc, mais quand tu veux déployer une infrastructure en un seul run sur une CD, bah, ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises plusieurs technos, quoi. Donc c'est pour ça très ouvertement, et c'est peut-être une mauvaise raison, mais c'est la seule unique raison pour laquelle j'ai pas pris le temps de jouer avec, en réalité.
Moi, pour moi, c'est exactement ce que tu as dit. Son seul véritable et unique reproche, j'ai envie de dire, c'est le fait qu'il soit complètement lié à Azure. Et c'est aussi ça qui fait sa force, finalement, parce qu'on le disait tout à l'heure, bah, l'avantage, c'est que tu as accès à tout le scope dès qu'il est disponible. Il est édité par Microsoft, donc évidemment, tu es à jour. Il y a peu de bugs, il est quand même bien supporté. Il le pousse pas mal aussi, de plus en plus. Donc je vois, nous, par exemple, chez C2S, qui faisons quand même beaucoup de projets quand même plutôt orientés Azure, il y a des fois, tu vois, c'est... Je trouve presque dommage de passer par Terraform plutôt que par Bicep pour des projets qui seraient full Azure, en fait. Donc l'outil n'est pas écarté, je le trouve assez intéressant, et ils sont juste venus gommer, en fait, la complexité ou les conneries de l'ARM template qui est imbuvable avec leur JSON à dégueuler par terre, là. Ça, c'est vraiment une horreur. Et du coup, ils l'ont rendu nickel, quoi. Enfin, et peu de fois où j'ai vu du bicep et où je m'en suis servi sur des projets perso, c'est... Quand tu fais de l'Azure, c'est top, quoi.
Je confirme, la lecture est deux fois plus simple, tu sais où tu vas. C'est... Oui. La seconde approche qu'ils ont du coup de ce côté-là, de côté IAC, je trouve qu'elle est bonne. Mm. Mais, bah...
Mais clairement que, voilà, dès que t'es pas... Soit t'es pas Azure, soit t'es pas que Azure, bah... La question se pose, et là le switch vers d'autres outils est, je pense, plutôt judicieux, quoi.
C'est comme dans beaucoup de choses, c'est une question de contexte, quoi. C'est en fonction de ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, et voilà, point. Parmi tous les outils qui ont été cités, je pense pas qu'il y en ait un qui soit mauvais, hein, qu'on s'entende bien. Qu'il y ait un langage à apprendre ou pas, qu'il y ait un SDK à apprendre ou pas, peu importe. Il faut voir en fonction du besoin qu'on a, si ça colle au besoin. Ou si ça colle plus aux besoins que les autres, bon bah c'est peut-être effectivement celui-là qu'il faut privilégier. Mais... Après on n'a qu'une vie, les journées font 24 heures, c'est pour ça que j'ai pas le temps d'utiliser Bicep aussi. On
ouais. Peut se mentir. C'est vrai qu'il faut trouver le temps. Mais en effet, c'est un des rares domaines où j'ai trouvé que tous les outils étaient de qualité, en fait. Ils avaient tous leurs points forts, leurs points faibles, mais ils étaient tous bons dans ce qu'ils annonçaient. Il n'y avait pas de mauvais outils. En dehors des templates ARM.
En dehors des templates ARM.
Et du coup, c'est ça qui est pénible, parce qu'il y a des fois, entre différents frameworks, langages, techno, outils et compagnie, t'en as qui sortent vraiment du lot, soit grâce à la hype, soit parce qu'ils sont vraiment bons nativement. Mais là, honnêtement, c'est pas le cas, je trouve. Donc c'est assez déroutant.
Bah, tu vois, bah, c'est ce qui me plaît, en fait, parce que du coup, il n'y a pas de guerre sainte comme on a pu l'avoir il y a quelques années entre différents frameworks, où là, c'est le choix est impartial, c'est rationnel, ben là, ça correspond mieux aux besoins, point. Alors peut-être que dans le futur, ce ne sera pas le cas, qu'effectivement, c'était une mauvaise décision, patati patata, mais là, quand tu prends ta décision, généralement, si tu la prends en connaissance de cause, ce n'est pas une mauvaise décision. Elle est difficilement, tu peux difficilement la remettre en cause, justement parce qu'il n'y a pas de guerre sainte, façon de parler. Ouais. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour du sujet, là. Maintenant que vous y avez autre chose à rajouter.
On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais... Oh bah... Mais on va en garder pour d'autres podcasts.
Ouais, le mieux serait même un live où on fait des démos, je pense, pour montrer aux gens ce qu'il en est, les différences, les points forts. Bon, on n'y est pas rendu. Remarque, dites-nous dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux si ça vous intéresserait de nous voir pratiquer en live. On pourra alors à ce moment-là peut-être monter, essayer quelque chose pour vous. Faites-le nous savoir. Je vous propose de passer au sujet suivant, du coup, la dépendance d'un projet à des librairies externes. Et pour cela, bah, écoute, Julien, je te laisse faire l'introduction, si ça te va.
Et je vais introduire le sujet en te posant une question, Emilien.
Ah, d'accord.
Si demain, sur une appli web, je te demande de faire une feature où tu dois créer et télécharger ensuite un fichier PDF, quel va être un de tes premiers réflexes ?
Du PDF en plus ?
Ouais, du PDF.
Bah alors, soit j'ai de la chance, il y a déjà tout ce qu'il faut, genre le framework est complet et c'est patati patata, bref. Soit j'ai pas de bol et je vois où tu vas venir, on est dans le sujet. Je vais aller chercher une dépendance externe, tout simplement. Un truc connu qui fonctionne, payant ou pas d'ailleurs, peu importe, mais je vais utiliser une dépendance externe.
Voilà, et c'est souvent le premier réflexe, comme tu dis, qu'on a sur un nombre incalculable de problématiques. Et pourtant, est-ce que c'est toujours une bonne solution ? Aujourd'hui, t'as énormément d'outils qui te permettent de gérer des packages. Pour en citer que quelques-uns, on peut citer Maven, on peut citer Yarn, on peut citer Nugget. Et du coup, ça devient d'autant plus facile de trouver des packages rapidement pour solutionner un problème sur un projet. Et on pourrait se dire, d'un côté, on n'a pas forcément ni le temps ni le besoin de réinventer la roue, donc ça fit totalement avec notre besoin. Mais on pourrait aussi se dire, notamment à cause d'événements qu'on a cités dans les précédents podcast, pardon, que bah, certains packages peuvent se retrouver sabotés, ou alors on... des fois ils vont plus être supportés, etc. Et du coup, bah, on peut être un peu réticent à utiliser ces librairies. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est toujours bien d'utiliser des librairies externes pour solutionner vos problèmes ?
Oui, oui et non. Oui, il y a parfois des problèmes que tu ne peux pas à toi seul coder et résoudre. Je pense au Google Solver, par exemple, qui peut apporter plein de solutions mathématiques à de nombreux problèmes, où là, clairement, tu vas pas les réécrire, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu fais tes week-ends, Julien, très honnêtement, mais je te déconseille.
J'adore les maths.
Donc, oui, c'est pratique. Après, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut pas tomber dans l'excès. Et j'ai toujours en souvenir les deux packages IsEven et IsOdd, désolé pour l'accent anglais catastrophique, mais qui sont présents sur NPM, qui sont juste deux packages qui permettent de savoir si un nombre est pair ou impair, en fait. Et là, clairement, on tombe dans l'excès. Oui, il y a un package pour tout, il y a toujours une librairie, une dépendance externe, mais c'est pas parce qu'il y en a pour tout qu'il faut le faire pour tout, en fait. Ça sert à rien d'aller dans ces profondeurs-là. Donc je pense que oui, c'est un mal nécessaire pour de nombreux points, mais qu'il faut pas en abuser, tout simplement.
Ouais, malheureusement, c'est vrai que c'est souvent une question de temps. Enfin, je vois notamment sur les projets en entreprise, évidemment qu'on serait sûrement tous capables de réécrire plein de choses qui existent dans des librairies ou de réinventer la roue à chaque fois. C'est pas vraiment un problème de compétence, mais à un moment donné, ton projet doit être livré dans un planning qui est plus ou moins serré. T'as ton code métier, t'as ta spécificité de ton projet à écrire. Si tu dois tout réinventer et tout réécrire, on ne pourra jamais terminer dans les temps, c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt partisan d'utiliser des libs pour certaines problématiques vraiment communes. Je sais pas, je pense à des exports de fichiers par exemple, des exports Excel, pourquoi pas l'ouverture de PDF dont tu parlais tout à l'heure, ou des briques fonctionnelles, enfin des briques techniques plutôt vraiment spécifiques que tu retrouves de projet en projet, et du coup bah quelqu'un a eu l'idée aussi avant toi d'écrire une lib, il s'est dit tiens, ce sera utile aux copains, et du coup en effet ça l'est, tu t'en sers régulièrement. Après voilà, faut peser le pour et le contre. La plupart des libs que tu vas utiliser, c'est des libs assez denses sur lesquels tu as beaucoup de code. Une lib où il y a un fichier, une dizaine de lignes de code, ça vaut peut-être le coup de se poser la question et de se dire bah voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une lib pour ça? Est-ce que je pourrais pas la réécrire moi-même? Est-ce que je pourrais pas le mettre dans un coin, le simplifier? C'est vraiment du cas par cas, la question n'est pas évidente, c'est pas évident d'avoir une réponse claire. La question n'est pas vite répondue pour être
c'est ça.
pour être dans le hype.
J'ai l'impression aussi que la recherche s'est simplifiée aujourd'hui pour les librairies. J'ai l'impression que quand tu recherches une librairie pour fit sur un problème, tu tombes beaucoup plus souvent sur des grosses entre guillemets libs qui ont pris possession du marché pour ton problème. J'ai l'impression que quand j'étais à l'école et que je commençais le développement, je tombais beaucoup plus sur plein de petites libs et j'avais du mal à choisir parmi les 10 qui s'offraient à moi. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins, comme je dis, des personnes qui ont pris des marchés.
Oui, des librairies qui sont sorties du lot, en fait. Où clairement, le travail qui était fait était bon, ça s'est agrégé sur d'autres petits problèmes. Et aujourd'hui, on a affaire à un truc qui est peut-être pas titanesque, mais beaucoup plus gros que ce que tu visais à la base. Ça, après, c'est j'ai envie de dire que c'est le bienfait d'un produit qui marche, quoi. Il aura toujours tendance à grossir. Parfois, c'est pas bien, qu'on s'entend bien, mais si ça marche bien, c'était bien conçu, effectivement, tu peux partir d'une petite librairie qui fait rien et qui, vu qu'elle fonctionne, elle grossit de manière organique. C'est logique, quoi. Après, c'est pas pour autant que ça fait d'elle un bon produit, hein, qu'on s'entende bien, mais ça peut être un bon candidat. Il y a des intérêts quand même à prendre les gros candidats comme ça, ceux qui sortent du lot, parce qu'on sait déjà qu'ils sont suivis, qu'il y aura la maintenabilité, qu'on peut nous aussi aller intervenir quand ils sont open source, qu'il y a une communauté derrière qui sera prête à nous aider à résoudre les problèmes sur ce sens dedans, donc il y a quand même quelques intérêts à viser les gros dans l'histoire. Et après, dans ce qui est la sélection des... Enfin, je vais revenir sur ce que tu disais, Mathieu, le coup de... Est-ce que je vais pas plutôt copier-coller le code d'une librairie, genre qu'à 10 lignes de code? S'il y en a qu'une, ça va, mais faut pas oublier derrière que souvent, on a aussi la maintenance à faire de nos applications. Et si tu l'as fait pour 10 lignes de code, bon, c'est pas grave, t'arriveras à t'en sortir, mais si tu l'as fait sur 500 librairies qui avaient 10 lignes de code, ça peut s'avérer compliqué pour le coup à gérer. Donc Effectivement, c'est une question qui n'est pas vite répondue. Et on n'a pas abordé les aspects sécurité avec le scan des vulnérabilités et ainsi de suite, mais c'est une question qui est, dont la réponse n'est pas évidente pour lui.
Et c'est, en effet, c'est ce que tu dis, c'est fortement lié au sujet dont on parlait la semaine dernière, si je ne me trompe pas, sur le sabotage des packages et tout ça. C'est finalement très lié, parce que si tu fais appel à aucun package externe et que tu réécris tout ou que tu copie-colle tout, tu te protèges quand même d'un certain nombre de vulnérabilités de ce type-là. Mais néanmoins, tu vas t'exposer à d'autres types de vulnérabilités, comme ce code-là, tu vas peut-être pas forcément le maintenir, il va peut-être y avoir d'autres failles de sécurité, enfin tu vois, c'est une question de poids et de mesure, hein. Faut peser le pour et le contre et voir ce qui est le plus adapté à ton cas d'utilisation, au temps que tu pourras mettre aussi dessus, à la durée de vie de ton application, parce que c'est pareil, tu vas utiliser des packages, faut-il encore qu'ils soient mis à jour ? On en connaît tous les applications qu'on a mis en prod et pour lesquelles les packages ne sont pas forcément mis à jour de manière très régulière derrière. Tu te retrouves exactement dans le même cas que si tu avais récupéré du code copié-collé et que tu l'avais mis dedans, finalement, tu vois.
Très clairement.
Oui. Et quand on se retrouve à faire des migrations de versions de framework et que, le package Nugget, il est pas maintenu, super, va falloir tout recoder.
C'est ça. Ça, des cas comme ça, je pense qu'on en connaît tous, on a tous été confrontés à ce genre de problématiques dans notre carrière. C'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, je pense que c'est au même titre que le sabotage des packages la semaine dernière, c'est un sujet qu'il faut que tout développeur ait dans un coin de sa tête, et que au moment de prendre la décision de j'ai une feature à faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends une lib externe, laquelle, est-ce que je leur fais moi-même, c'est important d'avoir ça, d'avoir ces infos-là en tête et de bien challenger le truc en fait. Au moins de se poser la question, tu vois.
Et je pense que l'outillage du dev va être dans les années à venir, va être une réponse nécessaire à ces problématiques. J'ai en tête le Dependabot de GitHub qui te permet de scanner ton repo et te dire ok, il te fait des pull requests en te disant c'est bon, telle et telle dépendance, ça peut être mise à jour. T'as tant de retard. Il ne le fait pas la mise à jour pour toi du code, hein, il te propose juste une pull request pour le faire. Et je trouve que ce genre d'outil, en fait, c'est une bonne chose, parce qu'à partir du moment où tu as pris le pli d'avoir une dépendance, tu as quelque chose qui te rappelle qu'il faut faire la mise à jour, qui est derrière, qui te tape sur l'épaule, qui te dit « Hey mec, oublie pas qu'il y avait une vulnérabilité, enfin peut-être pas une vulnérabilité, mais telle dépendance a été mise à jour. » Et couplé à des outils, j'ai Snyk en tête, parce qu'on l'avait essayé, j'avais trouvé ça superbe. Snyk te permettait de savoir que telle version de telle dépendance avait telle CVE dedans, avait telle vulnérabilité. Et je pense que ces deux outils couplés l'un avec l'autre sont peut-être une excellente réponse en fait à cette question de sélection de librairie. Parce qu'au final, tu te retrouves dans une situation où toi, en tant qu'être humain, tu es clairement faillible, il n'y a pas à dire. Mais c'est derrière qu'on vient contrôler ton travail et te dire « Ok, là, il serait peut-être temps de bouger les lignes, mec. Est-ce que tu peux monter telle version de ta librairie ?» Ou voire même, il y a une CVE qui a été trouvée là-dedans, descends-la d'un cran, parce que celle d'avant n'avait pas la CVE. Je pense qu'une bonne réponse à ça, ce sera justement le tooling, enfin les outils qu'on donnera à disposition aux développeurs là-dessus.
Avec les écosystèmes de plus en plus complexes auxquels on est confronté, c'est clair que le tooling, il est plus qu'important, il est limite indispensable, en fait, pour avoir un applicatif de qualité et pour pas perdre trop de cheveux à se dire... ce matin, est-ce que j'ai des paquets à mettre à jour ? Je sais pas, je suis pas bien. Tu vas aller écumer les sites internet ? Non, c'est pas possible.
Mais maintenant, tu sais comment j'ai fait de pas mes cheveux.
Eh oui, tu t'es trop baladé sur les sites pour vérifier s'il y avait des mises à jour. J'ai compris.
Exactement. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on va clore ce sujet ici. C'était super intéressant. Merci de l'avoir introduit, Julien. Je vous laisse peut-être dire un mot pour la fin, si vous le souhaitez, messieurs.
On manquera pas de vous reparler de ces deux sujets-là. Là, on en a fait un tour assez superficiel, j'ai envie de dire. Je pense qu'on reparlera de l'IAC, peut-être sous d'autres formes que du vocal, comme le disait Emilien tout à l'heure. et pareil, sur les choses qui tournent autour des packages, on en reparlera aussi, parce que je trouve ça important, on trouve ça important, je pense. Donc, deux très bons sujets, mais voilà, dans un timing assez réduit, on est obligé de faire des choix. En tout cas, n'hésitez pas à rebondir sur des choses, hein, dans les commentaires, tout ça. Venez nous parler de vos expériences, venez nous parler de vos parcours sur ces outils-là, ça nous intéresse et on pourra échanger. Avec grand plaisir. Hein.
Très bien, merci pour ce mot de la fin. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt.